Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 2h, et mercredi de 10h, heure de Kinshasa.
Alors, pour l'instant, nous sommes dans Capi Service. Si vous avez un enfant qui se plaint d'être à tout moment maltraité par des amis, que ce soit à l'école ou encore dans votre commune, là où vous habitez, votre instinct certainement va vous pousser à réagir. Mais comment devrez-vous vous y prendre concrètement? On va le savoir avec notre invité qui est en ligne, Isidore Bamalaï, en tant qu'éducateur à la vie. Vous êtes là pour répondre aux questions des auditeurs. Bonjour pour commencer.
Bonjour.
Alors, beaucoup de parents s'interrogent. Il est parfois difficile, hein, en tant que parent, d'accepter que son enfant soit maltraité. Et c'est tout à fait normal. Mais comment peut-on réagir? Parce que, bon, si on apprend, par exemple, que votre enfant, un parent apprend que son enfant a été frappé à l'école, il aura tout de suite cette envie d'aller frapper également la maîtresse. Mais est-ce que le parent doit s'y prendre de cette manière-là? Comment devrait-il s'y prendre concrètement, M. Isidore Bamanaï?
Oui, merci beaucoup pour la question. C'est un réel plaisir pour moi d'intervenir sur la radio Okapi, une radio qui est écoutée à travers le Congo, et pourquoi pas en dehors du Congo. Pour revenir à la question que vous posez, si un enfant est maltraité en dehors de sa famille, par ses camarades, par les autres personnes, je crois que la première chose que les parents doivent savoir, c'est que la vie elle n'est toujours pas facile. La vie a des moments où les gens rencontrent des difficultés, et quand un enfant est maltraité, c'est une des difficultés que la vie offre à la personne. Et je pense que la première action, c'est d'agir sur l'enfant lui-même. Parce que quand un enfant arrive dans un milieu où il n'est pas habitué, les autres vont l'accueillir, ils vont l'accueillir de plusieurs manières, et une des manières, c'est de le provoquer un peu et de voir de quel bois il s'échauffe.
Donc,
je pense que les parents, en analysant ce qui arrive à l'enfant tous les jours, est-ce qu'on l'injurie, est-ce qu'on le tape, est-ce qu'on se moque de lui, tout cela c'est une maltraitance. Les parents devront analyser la situation avec l'enfant et chercher à lui donner à lui des moyens de défense. Que quand on arrive dans un milieu, on se fait accepter de différentes manières. Soit par ses idées fortes, soit par une réaction rigide, et une réaction ferme. Parfois, bon, si c'est une bagarre qui éclate et que cet enfant-là ne sait pas se défendre, il est difficile pour lui peut-être de continuer à fréquenter l'école parce qu'il va se dire, si je vais encore à cette école demain, on risque de me frapper.
Oui.
Et si c'est venu de l'enseignant, ça c'est un autre cas. Il faudra peut-être qu'on attende qu'il y ait des questions pour voir si c'est un enseignant qui maltraite l'enfant. Bon, je pense que les parents prendront le temps d'aller à l'école, de parler avec la direction, de parler aussi avec l'enseignant, et de demander à l'enseignant de ne pas maltraiter l'enfant, parce que quand l'enfant va à l'école, c'est pour être éduqué et non pas pour être maltraité.
Alors,
parfois, il y a des enseignants comme ça qui, au premier contact avec les enfants, exposent leur sévérité et leur méchanceté. Et je crois que ça ne plaît pas à tous les enfants. Il y a des enfants qui risquent de faire de mauvais résultats à l'école à cause d'une situation comme celle-là.
Oui.
Donc il y a deux façons de faire. Armer l'enfant de ses propres moyens de défense, mais aussi agir sur les autres qui maltraitent l'enfant.
Oui, on retient ces deux aspects-là, ces deux orientations que vous avez données. Isidore Bamanaï, agir sur l'enfant lui-même. Alors, on aimerait revenir là-dessus. Quand vous dites que le parent doit agir sur l'enfant lui-même, comment le parent peut-il s'y prendre pour agir sur l'enfant? Parce que là, il faudrait être un peu plus précis hein, pour ceux qui nous suivent à travers le pays.
Oui, exactement. Il faudrait que les parents puissent dire à l'enfant que s'il y a un collègue qui entre en conflit avec vous ou qui cherche à vous maltraiter, bien, il faut arriver à se défendre. J'ai dit la première façon, c'est de dire ce que l'on pense, c'est de réagir, de ne pas rester bouche bée quand on a provoqué un enfant, comme quand on lui a lancé une insulte. C'est vrai qu'il ne doit pas aussi répondre par l'insulte, mais il doit dire que moi je ne tolère pas ce genre de situation, je ne suis pas habitué à être insulté, même dans ma famille on ne m'insulte pas. Au moins, les autres ont reçu le message retour dans leur action qu'ils avaient amorcé. À ce moment-là, ils peuvent se dire, tiens, avec celui-là, il ne faut pas l'injurier, ça ne l'arrange pas.
Mmh.
Si l'enfant s'était, si l'enfant ne dit rien, en tout cas, les autres enfants qui sont à cœur vont continuer à le provoquer plusieurs fois et à l'emmerder et même à le maltraiter.
Mmh.
Il faut réagir avec fermeté, mais dire ça, moi je ne tolère pas dans ma vie, je n'aime pas qu'on me traite comme ça, et je n'aime pas ce genre de comportement.
Alors, dans ces conditions, Isidore Bamalay, il faudrait que les parents puissent avoir régulièrement des entretiens avec leurs enfants. Un enfant qui rentre à l'école, supposé que cet enfant n'a que 5 ans ou 6 ans, il ne parle pas beaucoup, il est de nature un peu timide. C'est aux parents de faire cet effort-là, d'encourager ce dialogue entre son enfant et lui-même.
Oui, tout à fait. C'est par le dialogue que les parents entrent en contact avec son enfant. C'est par le dialogue que les parents peuvent arriver à découvrir quel est le caractère de cet enfant-là. Si c'est un enfant timide, je crois que quand il revient à la maison, les parents prendront le temps de se renseigner sur sa journée. Comment était la journée? Qu'est-ce qu'il a rencontré? Est-ce qu'il a de nouveaux amis? Est-ce qu'il s'entend d'entrer? Est-ce que l'enseignant est gentil avec lui? Est-ce que l'enseignant lui pose des questions? Dans ce moment-là, je pense que l'enfant peut s'ouvrir et raconter à ses parents, voilà, sur le chemin du retour, là, il y a tel enfant qui m'a provoqué. Et puis, en ce moment-là, on lui demande à lui aussi, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est le mettre devant ses propres responsabilités que de vouloir aller réagir à la place de l'enfant. Il faut lui demander, devant telle situation, comment toi tu as réagi.
Mm.
C'est quand l'enfant présente sa réaction qu'on va alors chercher à corriger, à modifier, à orienter, à dire non, tu aurais dû réagir de telle manière pour provoquer le respect envers vous auprès de vos amis. Donc il est important que quand l'enfant revient d'une école, ou qu'il revient de la promenade, ou qu'il revient de l'église, que les parents entrent en contact avec lui, qu'ils essayent un peu de savoir qu'est-ce qui s'est passé autour de lui, de telle manière qu'on puisse commencer à corriger petit à petit des failles qu'il y a. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut donner des moyens à cet enfant-là de pouvoir défendre, parce que la vie en dépend.
Tout à fait.
Sinon, il sera un enfant qui ne va compter que sur les autres.
Sur les parents.
Même plus tard, quand il sera adulte, il ne prendra jamais une situation en main.
Oui, Isidore Bamalay, nous retenons que l'enfant peut être maltraité par ses amis, il peut être maltraité par son entourage, et même à l'école. Et il y a des exemples, hein. On en a beaucoup des cas d'enfants maltraités de diverses manières. Et dans bien des cas, ce qui arrive souvent, surtout pour les enfants qui sont mineurs, hein, on leur dit, surtout ceux qui ont, mettons, 5 ans, 6 ans, 7 ans, donc qui ont un âge vraiment très bas, souvent ce sont des menaces. Si tu le dis à tel, à ton père ou à ta mère, tu vas mourir. Pour ces enfants-là, c'est vraiment difficile pour un parent d'arriver à faire sortir la vérité, hein, de son enfant. C'est ça le grand problème. Alors comment un parent peut-il arriver à faire accoucher en fait la vérité à son enfant?
Oui, je crois que si l'enfant est menacé et qu'il est maltraité et que les parents sont au courant, ils sont au courant d'une manière ou d'une autre.
Comment?
Parce que la question, c'est comment réagir.
Mm.
On ne peut réagir que dans la mesure où on est au courant
de
ce qui est arrivé à l'enfant.
Mm.
Peut-être les autres enfants sont venus raconter, peut-être, peut-être. Mais le point de départ, je crois que je peux insister là-dessus,
oui.
Le point de départ, c'est de parler avec l'enfant, que l'enfant arrive à délier. Si on lui a dit que si tu en parles, tu vas mourir, je crois que c'est une menace assez très forte.
Oui.
Et il peut dégénérer dans une situation de conflit ou même justice. Mais l'enfant doit arriver à dire à ses parents ce qui s'est passé, de telle manière que les parents se renseignent s'il faut agir sur l'enfant ou s'il faut agir sur l'environnement de l'enfant.
Oui, alors
parce qu'il y a moyen d'agir sur l'environnement de l'enfant.
Tout à fait.
Si on va vers l'école, si l'enfant fréquente l'école, on peut provoquer l'école une réunion avec d'autres parents où on expose ce genre de problème, où on attire l'attention des parents, des enfants qui ont ce genre de comportement, et c'est une part de responsabilité. Et puis c'est dès que tous les enfants qui fréquentent l'école se trouvent plus ou moins en sécurité pour qu'ils puissent évoluer dans un cadre plus ou moins normal.
Oui, alors nous rappelons encore à tous ceux qui nous suivent à travers le pays, qui peuvent intervenir en posant des questions au 081 070 à travers des SMS, donc 081 070 2050 à travers des SMS et 081 890 63 94 pour poser directement la question à l'antenne.
Découvrez les après-midis de Radio Okapi de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des rubriques femmes et des balades zigzags. Et enfin, un brin de culture, c'est en découverte. Un rendez-vous Radio Okapi pour des après-midis promeneurs. Découverte, le lundi à vendredi, à partir de 13h, heure de Kinshasa, avec Nico Julien.
Nous sommes toujours avec Isidore Bamanaï en tant qu'éducateur à la vie. Aujourd'hui, nous parlons avec lui des comportements que les parents en fait devraient avoir en général vis-à-vis de l'enfant qui est souvent maltraité par ses amis, par son entourage ou encore à l'école. Comment qu'un parent pourrait réagir? Tout à l'heure, Isidore Bamanaï, vous nous avez dit qu'il y a notamment deux orientations que les parents devraient suivre. D'abord, agir sur l'enfant lui-même. Il faut parler avec cet enfant-là. Il faut discuter, échanger avec les enfants. Mais il faut aussi donner des moyens de défense à l'enfant parce qu'il arrivera qu'un jour qu'il soit grand. Et si les parents ont toujours réagi à sa place, ils ont toujours tout fait à sa place, eh ben, il sera capable de se défendre, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, puisque nous parlons des enfants, Isidore Bamanaï, nous avons bien sûr des auditeurs qui sont en ligne, on va bientôt les recevoir, mais quels sont, pour commencer, les signes qui montrent qu'un enfant a des problèmes, les signes qui ne peuvent pas tromper un parent, Isidore Bamanaï?
Oui, merci beaucoup pour la question. Je suis souvent visible. Parce que l'enfant qui a 5 ans, 6 ans, il est difficile qu'il cache complètement la situation qu'il a rencontrée sur terrain. Un enfant qui avait été menacé, je crois que si c'était un enfant qui était habitué à parler, on constatera qu'il parle moins quand il revient à la maison. Si c'était un enfant qui était habitué à manger avec beaucoup d'appétit, on constatera qu'il ne parle pas. Il n'est pas très excité par les repas et il mange à peine. Parfois, il se retire et il peut s'enfermer dans. Il reste dans un coin triste, il ne dit rien. Il faut qu'on le provoque. Je crois que ce sont des signes assez simples pour que les parents puissent arriver à se rendre compte que c'est cet homme ou cette femme a un problème qu'il a rencontré sur la route et on peut provoquer un dialogue avec lui, commencer par des petites choses, pas aller tout droit à la situation grave qu'il a rencontrée sur la route, des petites choses, comment a été la journée, est-ce que tu as été content, est-ce que tu as parlé avec qui est-ce que tu as rencontré à l'école, et ainsi de suite, petit à petit.
Il va arriver.
On a l'impression que tu n'es pas dans ton assiette comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, si tu as un problème, tu peux te confier à nous. Et nous sommes là prêts pour pouvoir en parler et chercher des solutions. Donc, de cette manière-là, les parents se rendent compte. Ils provoquent petit à petit la discussion pour remettre l'enfant dans les bains, l'aider et l'encourager.
Donc, il faut y aller.
C'est que l'enfant s'ouvre et présente sa situation.
Il faut y aller au fur et à mesure, il ne faut pas être brutal. Et si tu commences à t'entendre.
Il faut y aller au fur et à mesure. Peut-être l'envoyer acheter quelque chose, il revient. Donc, il faut observer et rester soi-même sur ses propres sentiments, ne pas les extérioriser, ne pas se lamenter. N'est pas
le gronder par exemple.
Une situation, une ambiance normale,
tout à fait
ordinaire normal. De tous les jours, mais où les parents qui est adulte se rendent compte que l'enfant là, il a un problème.
Tout à fait.
On l'approche petit à petit, je vois que la confiance revient et l'enfant va s'ouvrir et il va parler.
Oui, évidemment, ce que vous dites est très intéressant, mais il y a un problème vous sortez plus ou moins entrecoupé à certains moments. Ce serait bien que vous vous déplaciez un tout petit peu, hein, parce que vos propos sont très importants et ça mérite que nos auditeurs vous écoutent 5 sur 5. On a d'ailleurs un auditeur qui est au bout du fil, Patrick Lengue, il réagit depuis Lubumbashi. Patrick, bonjour.
Bonjour madame, bonjour aussi à notre invité.
Oui, alors quelle est votre préoccupation Patrick?
Oui, j'aimerais d'abord réagir sur ce que notre invité vient de dire, parce que moi aussi j'ai vécu ce genre d'affaires quand j'étais petit. Bon, il y avait un monsieur bon, plus grand que moi quand j'étais à l'école qui me bouffait les trous, qui me prenait toute ma bouffe. Alors chaque fois que ça m'arrivait, je rentrais à la maison trop mou et pleurant. Alors mes parents me disaient toujours de réagir. Comme le monsieur qui me bouffait était trop grand par rapport à moi, chaque fois que je rentrais pleurer, j'ai pleuré, je ne pouvais plus dire ça à mes parents parce qu'eux me disaient de réagir. Or le monsieur, je sais pas, face à qui je devais réagir, était plus grand que moi. Ce qui fait que j'étais trop frustré et que je ne savais plus quoi faire. Mais par contre, mes frères, eux, avec qui j'étudiais, eux, ils réagissaient. Ils venaient taper le garçon, ils tapaient le garçon et ça créait toujours des problèmes. Et à l'école et à la maison. Et ma préoccupation est celle-ci. Comment est-ce que les parents peuvent parler à l'enfant ou bien comment est-ce qu'ils peuvent demander à l'enfant de réagir pour que l'enfant ne puisse pas rentrer frustré parce que s'il veut réagir qu'il ne trouve pas de réponse, il va se renfermer sur lui-même. C'est un peu ça ma préoccupation.
Une préoccupation vraiment pertinente. Je crois que notre auditeur, notre invité est là et qu'il est bien placé pour répondre à votre question, Patrick. Merci beaucoup. Nous avons également Jean Ndamboshi. Hein. Jean Ndamboshi, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Alors, quelle est votre question, Jean Ndamboshi de
Paris? Je voulais juste donner une question à notre invité. Oui. J'ai été victime à l'école. Souvent, on me tabasse. Si on me frappe à l'école, je rentre plus vite à la maison pour expliquer à ma maman. Et ma maman me frappe encore le fils. Bon, je ne savais pas quoi faire. À l'école, on me frappe. À la maison, je donne le rapport, on me frappe. Bon, qu'est-ce que le parent peut faire pour arrêter ce genre de choses?
Voilà, des questions de nos auditeurs. Continuez à le faire, hein. Continuez à réagir au 0881-890-63-94. Gideon Bamanaï, vous avez suivi les préoccupations de nos auditeurs. Patrick Lengue et puis Jean Ndombashi sont des personnes adultes, c'est vrai, mais ils ont été enfants. Alors aujourd'hui, il y a peut-être des enfants qui rencontrent le même problème. Quelles sont les réponses que vous pouvez leur donner?
Oui, merci beaucoup. Quand vous me demandez de me déplacer, mais je suis au studio, je ne sais pas si je suis au studio de la radio au Capi.
Oui, allez-y, ça va beaucoup mieux, allez-y.
Ok, merci. Patrick, merci beaucoup pour votre question. Je crois que si un plus grand maltraite un tout petit, la réaction... C'est d'abord de réagir devant ce tout grand, je dis, vous n'avez pas raison de me taper, je suis comme un de vos petits frères, je me demande pourquoi vous vous comportez comme ça devant moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Et quand vous dites cela en le regardant dans les yeux, à ne pas pleurer, je crois que ça peut agir sur son mental, de telle manière qu'il se dise, ah, ce type a pris du courage aujourd'hui, il a réagi tout en me regardant dans les yeux. Ne cherchez pas à lui jeter des cailloux, ne cherchez pas à l'injurier, parce que ça peut seulement empirer la situation et on ne pourra pas trouver une solution à l'amiable. Des deux, si c'est dans une école, mais pourquoi ne pas en parler à l'enseignant? Pourquoi ne pas en parler au directeur d'école? Que je souffre dans cette école parce que tel garçon qui est plus grand que moi me maltraite et ça m'empêche d'évoluer normalement. Je dis aussi que plus loin, l'école peut convoquer tous les parents des enfants dans une réunion des parents, pas seulement pour parler des faits scolaires, mais aussi pour évoquer ce genre de situation, pour rendre tous les parents devant leurs responsabilités, que quand les enfants vont à l'école, ce n'est pas pour maltraiter les autres, c'est plutôt pour apprendre à vivre ensemble. Je crois que vivre ensemble présente toujours souvent des moments où on a des écueils, où on se frictionne un peu, ça arrive, mais que cela ne dégénère pas sur le combat, que cela ne dégénère pas sur la maltraitance. Je crois que le plus important pour moi est que l'enfant qui est victime puisse d'abord réagir par la parole et réagir par des idées fortes. Quand on a des idées fortes et qu'on agit sur le mental de celui qui se croit plus grand, celui-là va se dire, tiens, dans la petite fête de cet bonhomme ici, il y a quelque chose qui peut me dépasser.
Oui, mais...
Et cette réaction est nécessaire.
Mm.
Elle est strictement nécessaire. Si après cette réaction, il n'y a pas de résultat, on va se référer aux autorités de l'école. Et bon, peut-être on en parle aussi aux parents, pour que les parents sachent que notre enfant, quand il va à l'école, il est victime de maltraitance.
Oui, mais vous savez que...
Et pour notre ami de Lombassi, il dit que quand il rentre à la maison pleurant, racontant sa situation, sa mère...
Le frappe aussi.
Le frappe aussi, ça c'est déplorable.
Oui, c'est vraiment terrible.
Déplorable, c'est déplorable qu'on soit violenté dehors, et quand on rentre dans la maison, on est aussi violenté. Mais dans l'ancien temps, c'était une façon de dire aux garçons, tu ne dois pas pleurer. Quand il y a une situation, tu dois te battre. Tu dois te battre et ne pas revenir ici en pleurant pour recourir à nous. Je crois que nos arrière-grands-parents ont agi comme ça. Dans une certaine mesure, ça a porté des fruits, mais dans une autre mesure, ça fait que c'est allé de conflit en conflit, et même les conflits ont atteint les parents, et parfois les conflits ont grandi jusqu'à atteindre des villages. Mais je crois que, raisonnablement, les parents accueillent son enfant avec un peu de compassion, mais aussi on lui dit, arrête de pleurer, parce que quand tu pleures, celui qui te maltraite va continuer à te maltraiter.
Tout à fait.
Vous savez que même dans le couple, si l'homme frappe sa femme et que la femme ne pleure pas, cela l'interpelle. Il se dit, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de cette femme? C'est la même chose qu'un garçon qui a 6 ans, il reçoit une gifle d'un grand garçon qui se retourne et le regarde fixement dans les yeux.
Il aura peur.
Et lui, il va dire, qu'est-ce qui se passe? Ça fait déclencher un début de solution. Et s'il ajoute la parole pour dire, il ne faut pas me maltraiter, ce n'est pas correct.
Mm.
Je pense que, raisonnablement, chaque personne dotée de conscience peut se dire, non, j'ai mal agi. Et ça ne peut pas continuer comme ça.
Oui, Isidore Babanaï, ce que vous dites est très intéressant et je pense que les auditeurs ne manqueront pas de réagir. Ils vont continuer d'ailleurs à réagir parce que pas mal des gens ont réagi. Mais il y a une question qui nous vient à l'esprit, hein, Isidore Babanaï. À supposer que quand vous dites que l'enfant doit, il ne doit pas être victime, il doit réagir sur la parole. Si cet enfant se retrouve en face d'une personne qui est, je dirais, beaucoup plus âgée, physiquement la personne est beaucoup plus forte, c'est difficile pour cet enfant-là de réagir sur un enfant qui est beaucoup plus âgé que lui et de loin beaucoup plus fort.
Oui, à première vue, on peut dire que c'est difficile, à première vue.
Mm.
On peut dire que c'est difficile, mais si le petit là ramasse son courage à faire des petits gestes et des petits mots, je crois que ces petits gestes et ces petits mots peuvent soulever des montagnes. Je crois qu'il suffit seulement de ramasser son courage. Parce qu'après tout, si le petit là n'arrive pas à se défendre et qu'il continue à être une victime résignée, mais toute sa vie ne va pas quand même pas se passer comme ça.
Oui.
Devant des difficultés dans la vie, devant des problèmes, il faut savoir réagir proportionnellement. Il faut savoir réagir. Et c'est là les parents qui ont l'obligation de le répéter plusieurs fois à leurs enfants pour que les enfants, une fois loin des parents, puissent pouvoir assumer les responsabilités devant des situations qui leur arrivent.
Donc, on retient...
Je pense que c'est vraiment important.
Oui,
il faut absolument que l'enfant apprenne à réagir.
Tout seul.
Pas violemment, mais réagir avec, courage, avec des idées fortes. Des idées fortes, je crois que ça peut agir sur le mental de l'agresseur.
Donc, finalement, la timidité ne résout rien du tout. Un enfant qui est timide, fermé, ça ne l'aide pas trop et les parents doivent encourager cet enfant-là à s'exprimer, à parler, Isidore Babanaï. On a Guila de Pimbandaka qui est en ligne. Il a certainement également une préoccupation. Guila, quelle est votre question? Voilà, on a été coupé avec notre auditeur, mais il va pas manquer de rappeler certainement 081-890-6394. Isidore Babanaï, nous poursuivons avec vous parce que il y a beaucoup de cas. Vous savez, en tant que mère, c'est souvent difficile de voir que son enfant a été maltraité, qu'une institutrice ou encore un professeur l'a frappé à l'école, parfois sans raison, ou peut-être une voisine l'a blessé. Sans raison, la maman très vite, elle n'hésite pas à aller frapper sur cette voisine ou encore sur cet enseignant.
Oui, mais malheureusement aujourd'hui ça arrive de temps en temps. Depuis que les parents
donne de l'argent aux écoles et que cet argent va dans la motivation des enseignants, les parents ont parfois ces réactions intempestives qui ne sont pas des réactions raisonnables et qui ne sont pas des réactions qui peuvent arriver à trouver des solutions à un problème qui se pose. Je crois qu'il n'est pas indiqué à un parent, même si l'enseignant a frappé son enfant, d'ailleurs l'enseignant sait que les punitions corporelles sont antipédagogiques, c'est une instruction qu'ils doivent observer au niveau des écoles, mais même alors, il n'est pas indiqué que le parent aille à l'école ou qu'il attende l'enseignant au coin de la rue et qu'il tombe sur l'enseignant. S'il tombe sur l'enseignant, je ne sais pas, l'enfant, il va continuer à aller à l'école demain, qui va dans une autre école et que là aussi il rencontre une même situation.
Il va changer de l'école.
Oui, moi je pense que le parent va à l'école, à première vue, il peut parler avec l'enseignant. Pourquoi l'enseignant agit de la manière? L'enseignant peut dire pourquoi il a agi de telle ou telle autre manière et que les parents puissent lui exprimer son indignation dans des mots assez clairs et demander à l'enseignant de cesser de martyriser l'enfant.
Tout à fait. Disait Bonsoumi,
cela ne marche pas, il y a la direction de l'école. La direction de l'école. C'est une voisine qui a blessé l'enfant. Oui, ça, c'est, ça devient une affaire civile. La première chose, c'est de se rencontrer entre adultes
et
de s'exprimer. Et on parle.
Et disons, ben, on va donner la parole à cet auditeur qui est en ligne, Didier Bonsomi, depuis Bounia, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on lui laisse aussi poser sa question. Didier Bonsomi, vous êtes en ligne?
Allô, je suis en ligne.
Oui, alors quelle est votre préoccupation?
Oui, je voulais poser à l'intervenant cette question. Alors, il y a des enfants qui passent à l'école, quand on les mélange à l'école, ils rentrent venir réagir, donner le rapport aux parents à la maison. Et les parents vont dire encore à la femme, décourager l'enfant, disant que toi, tu as les mains, si quelqu'un tape sur toi, et toi aussi, tu as les mains de retourner ce qu'on t'a fait. Alors, quel est le conseil que l'intervenant peut donner à des parents pareils pour ne pas vraiment continuer à rendre les enfants tristes? Ou soit de les faire fuir le chemin de l'école.
Vous avez tout à fait raison. Allez, on va donner la parole à notre auditeur, à notre invité, hein, Isidore Bamanae. Oui, vous avez suivi la question de Didier Bonsomi, hein. Très facile, on peut demander à l'enfant de retourner, autrement dit de répliquer ou de frapper celui qui l'a frappé.
Merci beaucoup pour la question. Dans la plupart des cas, et parmi les réactions qui arrivent, si on ne prend pas un petit moment pour réfléchir, sont des réactions qui arrivent et certains parents poussent leurs enfants à des réactions comme cela. Mais si c'est l'enfant qui a reçu une gifle, s'il le réplique et que par après il reçoit un coup grave, ou il reçoit un coup de pied ou un coup de tête, qu'il tombe, qu'il perd une dent, je crois qu'on n'a pas trouvé une solution à cette situation. Moi je pense que l'enfant reçoit une gifle, s'il ne réagit pas à une gifle, il devra être plus fort que celui qui l'a giflé. Mais s'il réagit par une parole, pas trop méchante, et s'il dit, même si j'ai mal agi, est-ce que ta réaction devait être de me gifler? Je crois que si on pose cette question-là à celui qui a giflé, il n'aura pas assez de force dans ses bras pour renvoyer une deuxième gifle.
C'est facile à dire, hein?
Je crois fermement.
Oui.
Je crois fermement.
Isidore, en tant qu'éducateur à la vie, bon, c'est une question qu'on vous pose, hein, parce que dans votre métier, certainement que vous avez déjà eu à rencontrer ce genre de cas, hein, vous êtes psychologue, on peut le dire aussi, pour les enfants. Est-ce que vous avez déjà eu à vivre ce genre de cas, à conseiller les parents de cette manière-là, et ça a donné le résultat escompté?
Oui, ça a donné des résultats escomptés. Certains parents ont dû même accepter de continuer à réagir calmement devant une situation qui les frustre au lieu de tempêter. Quand on tempête, on ne trouve pas de solution. Quand on réagit sur le chaud, la colère a envahi l'intelligence, les sentiments ont vibré le cœur et là, la réaction n'est pas réfléchie. Quand la réaction n'est pas réfléchie, ce qui va venir par la suite n'améliore en rien la situation qui s'est provoquée, qui était une situation défavorable. Moi, je continue à croire sincèrement que si devant une situation comme celle-là, on se calme, on va parler avec les agresseurs,
Je crois qu'elles peuvent gonfler pour dire ils ne peuvent pas réagir avec force, mais quelque part, dans l'important conseil, ils pourront se dire non, nous avons agi dans un mauvais sens, nous n'avons pas raison de continuer. Si eux-mêmes ne sont pas convaincus, on agit sur les gens dans leur environnement immédiat qui peuvent les aider à comprendre que la vie, ce n'est pas se tirer les oreilles, la vie, c'est se parler gentiment, même si on n'a pas été d'accord avec un point de vue de quelqu'un. Je pense que cette éducation-là, elle est importante. Comme ça, nous aurons de moins en moins de violents. Et quand on a de moins en moins de violents, l'harmonie et l'équilibre dans la société est possible.
Alors, résumons, en conclusion, il faut que les parents apprennent à agir sur les enfants eux-mêmes. Et à donner aussi les moyens de défense à ces enfants. Il ne faut pas les rendre des violents, mais il faut plutôt leur donner des moyens de défense, en parole surtout, afin qu'ils arrivent à se défendre eux-mêmes plus tard. Et c'est bien, on va s'arrêter là, nous rappelons à tous ceux qui nous ont suivis que vous êtes éducateurs à la vie. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.
Merci à vous et merci à la radio.